Voilà en page 56, se protéger de la déception. Avec une petite musique de fond en plus. Je sais pas pourquoi ce matin, mais moi j'écoute souvent via Illico le poste 536, qui est un genre de lounge. Sur YouTube, il y a plein d'excellentes musiques là, d'ambiance, vraiment. Ron Gelina, par exemple, je vous conseille ça, Ron Gelina ou Paul, DJ Polo, tu vois déjà, j'oublie son nom, mais en tout cas, bref. Mais il y a un canal sur Vidéotron qui s'appelle, c'est ça, c'est 536, le lounge, et puis c'est bon, en tout cas, bref, vous l'entendez pas trop, mais je me disais, peut-être vous allez me dire, hey, oublie ça, c'est poche, puis, ou sinon, c'est juste une petite musique de fond, peu importe. Ce que je vous parle ce matin, c'est une observation, puis j'ai parlé de ça hier avec Martine, qui est ma comptable, avec qui je travaille depuis déjà quasiment 20 ans. Puis je lui disais que, je remarquais dans le dossier de la radio, par exemple, moi ça fait 5 ans que j'ai switché de la radio variété musicale, énergie, dans ce style-là, à Cogeco Talk. Alors 50 ans, j'étais un des panélistes à la fin de l'émission Weekend Extra avec Mathieu Beaumont. Pendant 5 ans, 4 ans ou 5 ans, on avait le dernier 20 minutes qui s'appelait Point de vue. On était toujours un contre, entre guillemets, l'autre. Puis c'était un débat sur des sujets d'actualité très, très, très variés. Puis c'était, mes collègues, c'était des journalistes de la presse, Marie-Claude Lortie, Olivia Lévy, il y a eu Bernard Brisset qui a été là-dedans pendant un bout de temps. Bref, des journalistes. Puis au début, c'est Michel Laurent qui avait initié ce segment-là, puis il voulait avoir des gens de profils différents. Puis je suis embarqué là-dedans, puis moi, j'aimais vraiment, vraiment ça. Puis l'automne passé, ils ont décidé d'enlever la programmation musicale pour faire une programmation parlée, ce qui apparaît logique, c'est une radio parlée. Puis ils ont considéré que ça a été un flop. Alors ils ont mis 3-4 émissions différentes les samedis dimanches, puis ça n'a pas levé à leur goût. Et ils sont revenus à la musique, puis ils ont fait des changements dans l'émission de Mathieu, qui s'appelle Weekend Extra. Moi, j'avais commencé dans le temps de Guy Simard. Et puis, voilà, donc, finalement, ils ont enlevé le segment Point de vue. Je trouve ça plate, là. C'était manifestement quelque chose qui marchait en termes un peu de tout, au niveau des réécoutes aussi, c'était intéressant, là, sur Internet. Et puis, en parallèle à ça, j'ai toujours été au FM 93. J'étais quotidien avec Sylvain Bouchard à partir de août 2013. Il y avait un directeur des programmes qui a perdu sa chaise pendant le temps des fêtes. J'ai perdu la mienne. Après ça, Pierre Martineau est arrivé, il m'a ramené. Et c'est là qu'il m'a mis... avec mon émission l'été et dans le temps des fêtes, Marc Bollard-Heim. Dans le mid-morning, c'est-à-dire la slot où il y a le reste de l'année, José et le Doc Mayou. Ça fait que ça commence lundi prochain. Là, je vous en parle souvent parce que j'ai bien hâte. Puis, je remarque, donc, cette intro pour vous dire que je remarque que souvent, les gens de mon entourage, quand je leur parle de radio, puis que moi, j'en veux plus, puis que j'espère éventuellement avoir mon émission, puis blablabla, les gens voient une espèce d'acharnement parce que ça fait 4 ans que j'ai quand même une place dans tout le réseau. Bon an, mal an, il y a des affaires qui tombent, des affaires qui se rajoutent, mais que je suis jamais tête d'affiche, c'est-à-dire que, bon, ce à quoi je réponds, c'est un peu normal, jusqu'au dernier sondage du 93 qui a été difficile parce que Gilles Parent est parti, il a été dans tous les trucs de MeToo, là, tu sais. Puis en un sondage, l'équipe qui est restée là, donc la même équipe sauf Gilles, ben ça a été une drop, tu sais, puis ça a été difficile pour tout le monde. Mais ça crée des ouvertures. Bon, là, tout à coup, il y a des chaises à remplir, il y a des choses à changer. Ce qui n'était pas le cas pendant 4 ans, où est-ce qu'à chaque fois, que ce soit au 98.5, c'est encore le cas, ou au FM 93, quand les sondages sont bons, tu fais comme, ben on t'aime bien, Marc, mais la réalité, c'est que ça marche, tu sais, ça fait qu'on ne tassera pas quelqu'un si ça marche. J'ai toujours compris cette affaire-là. Puis, de toute façon, moi, j'ai une carrière avec plusieurs volets. Et je fais des publicités pour le groupe Saillant à Québec. J'anime, comme demain, après-demain, justement, j'anime des assemblées générales de compagnie ou des trucs du genre. J'écris des livres, j'ai fait des conférences, j'en fais d'autres. Puis je fais de la radio à travers ça. Donc moi, mon profil professionnel, c'est plusieurs activités qui nécessitent pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que de la radio, ça dure 90 minutes. Qu'est-ce que je fasse? Il n'y a personne qui a une émission de 8 heures en radio, bon... Puis quand tu fais une conférence, ça dure 1 heure, puis une animation, ça dure 2 heures, puis tu sais, tu comprends, c'est... Donc moi, qu'il y ait de la radio un peu, mais pas autant que je voudrais, ça m'apparaît comme why not? À la rigueur, s'il faut vraiment mettre des images, ben on peut dire que c'est un sideline. Je veux dire, les gens qui ont des jobs 40 heures, ils ont le droit d'aller à la chasse la fin de semaine, faire du 4 roues ou faire de la natation. S'ils ne deviennent pas des athlètes professionnels en natation, on leur dit pas c'est épouvantable. C'est qu'il y a juste une question de perception ici. Fait que moi, c'est pas un sideline dans le sens que non seulement je prends ça au sérieux, mais c'est ce que je voudrais le plus qui augmente dans mes affaires. Mais en bout de ligne, ça s'insère très bien, puis pourquoi pas le faire, tu sais? Sauf que ça, je me rends compte que quand je parle de ce qui a de l'air d'un acharnement, les gens ont tendance à trouver que, franchement, ça aboutit pas, blablabla, puis j'ai toujours trouvé ça bizarre de dire « Comment ça aboutit pas? » J'ai quand même mon émission qui s'appelle « Marc Boiler AM ». Je remplace pas personne. Ils font un très bon travail. Ils ont des bonnes cotes d'écoute. Ça roule José puis Mayou. Mais je veux dire, à un moment donné, ils prennent des vacances. Puis moi, j'arrive là. Puis c'est moi qui prends la... De la même façon, si tu veux, que Jean-Philippe Autier, avec son émission le dimanche à Radio-Canada, il remplace pas « Tout le monde en parle ». Tout le monde en parle arrête, puis il y a une autre émission. T'sais? Pour moi, je le vois comme... pas capable de le voir autrement, mais je vois que les gens autour... Et là, je me questionnais là-dessus. Puis je pense que ce qui se passe, c'est que, règle générale, les gens gèrent l'éventuelle déception. Les gens ont tendance à se prémunir contre une déception. Puis là, c'est pas juste dans le domaine professionnel, je dirais que c'est même particulièrement dans le domaine personnel. C'est-à-dire que tu sors, par exemple, ma théorie des chars usagés, là, tu sais, plus on vit, plus on est des autos usagées qui ont eu des relations, puis ça finit, puis là, donc, il y a eu un accident, puis on se rend compte, tout le monde, puis on est des autos usagées accidentées. C'est la vie, c'est normal, c'est pas grave, sauf qu'il y en a pour qui l'accident est là, puis ils le savent pas. Il y en a qui sortent d'une relation, puis ils sont plus capables de tourner à droite, parce qu'il y a eu un accident. Fait que quand tu le sais, tu le répares, puis tu dis, bon, ben, faut pas que toute ma vie, je sois juste en train de tourner à gauche, parce que je vais rencontrer des gens qui, peut-être, ça aurait besoin d'un coup de volant vers la droite, mais moi, dans ma tête, je le fais pas. C'est ce que j'appelle ma théorie des chars usagés. Puis, ça, alors, je réalise que c'est comme plus, si tu veux, c'est plus répandu que juste ma petite théorie. C'est que les gens gèrent beaucoup la déception. Les gens veulent pas être déçus. Ça fait qu'ils peuvent se couper d'opportunités ou de potentiellement de dire, ben, je persiste dans une avenue qui m'enlève absolument rien. Ça m'enlève rien. C'est sûr que s'il fallait que tu choisisses une job 40 heures versus une job 40 heures, là, je comprends. Là, tu gères le temps disponible. C'est autre chose. Mais si tu as un format d'affaires où est-ce que tu as toujours du temps d'insérer une nouvelle activité, parce que moi, je dis oui à tout, dans le sens que j'en ai de la place, veux pas. Tous ces volets-là, là, cet été, là, ils marchent toutes. Tout. Mais je veux dire, j'ai de la place pareil, tu comprends? Ça finit à 11h l'émission, je peux faire le reste de mon classage, je peux en prendre d'autres. Mais la réaction, c'est beaucoup ce que je constate, que les gens associent ça à « oui, mais c'est comme si je devrais être déçu que ça n'arrive pas. » Puis que si je suis déçu que ça n'arrive pas, il faut que je me protège de cette déception-là. Ça voudrait dire ultimement de comme... Puis je me le fais dire, « ah, ben tu devrais t'enlever ça de la tête. Tu devrais plus attendre après ça. » Ben j'attends pas après ça. Moi, je fais ma vie, je fais mes affaires, je roule ma bosse. Est-ce que je le souhaite, c'est une chose. Est-ce que j'attends, c'est autre chose. Si j'étais en stand-by, ça peut poser problème de dire « je fais quoi éternellement, là tu fais crime, t'es entre deux chaises. » Puis alors ça, je comprends très bien. Mais c'est pas le signal que je reçois. Puis je suis très curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir-là, mais j'entends plus des gens qui managent l'éventuelle déception, qui se disent « moi, j'aurais mis un X sur ce dossier-là parce que ça aboutit pas à une vitesse qui m'apparaît normale. » Puis, bon, on peut rentrer des critères de patience là-dedans, où une de mes chums m'avait déjà dit une phrase que je trouve super bonne, la persistance brise la résistance, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu persistes, puis c'est pas parce que les gens autour de toi finissent par reconnaître ta valeur, autant qu'il y a des chaises de libre, puis ils se disent « coudonc, qui on prend? » Ben, on prend la personne qui est à une distance de bras. C'est toujours ça dans les médias, c'est-à-dire, si Paul s'en va, je m'étire le bras, je ferme les yeux, puis le premier dans lequel je m'enfarge, c'est celui qui va remplir la chaise. C'est très souvent ça qui est fait. Puis je dis pas que c'est des mauvaises façons de gérer, juste, c'est ça. Ça fait que cette déception-là, moi, on dirait que j'ai choisi sciemment de pas la gérer. C'est-à-dire que, au pire, je vais peut-être être déçu, mais ça change quoi? Je refuse qu'une opportunité se présente pas parce que j'aurais dit... Je mets un terme aux démarches que je fais parce que je veux pas être éventuellement déçu. Ben non, je serai éventuellement déçu. Quel temps que je perds en attendant? Je suis à radio, puis je me dis à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver. Ou peut-être pas. Mais pourquoi je dirais, ah oh, ben d'abord, zéro, non, moi j'y vais pas, tu sais. Ben c'est cave. J'aime ça. De un, j'aime vraiment ça. Moi, dans un studio de radio, je suis au paroxysme du bonheur, sérieusement. C'est toujours de même. Ça fait que tu fais, il est où le problème? Mais problème, il y a, semble-t-il, de l'entourage qui décide tout à coup que il y a une espèce de continuum, là, puis de ce que moi j'appelle de la persistance, qui a l'air de l'acharnement. Mais de l'acharnement, c'est quand, à un moment donné, tu fais quelque chose en sachant, à quelque part, que ça aboutira jamais. C'est pas le cas du tout. Preuve en est que là, il y a des chaises de disponibles, puis il y a peut-être de l'action qui va arriver ou autre, puis qu'il y a quelque chose là-dedans. Je sais même, peut-être que ça me conviendra pas non plus, mais who cares? C'est vraiment toute cette section-là de gérer la déception, moi, qui me surprend. Puis quand tu parles du domaine sentimental, ben là, c'est encore plus intéressant. Parce que si, admettons, tu racontes une histoire qui n'a pas marché, évidemment, si tu racontes une histoire qui a marché, ah ben là, c'est fantastique, c'est beau, puis tout va bien, ouais, OK. Mais admettons une histoire qui marche pas. C'est-à-dire que tu fréquentes quelqu'un, puis finalement, pouf, ça s'arrête, malgré ce que tu aurais aimé. On l'a tous vécu. Là, tu remarques que les gens, là, t'as même pas fini de commencer l'histoire, puis que là, c'est déjà, ouais, mais on sait bien, puis là, je finis mon avant-dernier livre comme ça, où je raconte une histoire comme ça en me disant que j'ai dit 42 mots. Je raconte une histoire toute simple, que j'ai rencontré une fille, qu'après trois fois, elle a dit, je retourne avec mon ex. Puis c'est tout, ça fait 42 mots. Puis je raconte, quand tu racontes ces 42 mots-là, tout le monde a une opinion. Tout le monde rajoute de quoi à l'histoire, alors qu'il n'y a rien à rajouter. Tu as rencontré quelqu'un, la personne, finalement, ça n'a pas abouti. Je veux dire, tu peux te mettre à décortiquer ça, puis c'est intéressant, puis pourquoi, puis telle affaire, fine. Mais c'est comme si, à quelque part, ça réveille chez les gens, peut-être des blessures qu'ils ont eues. Puis la réaction de tout le monde, encore une fois, c'est de se protéger de la déception, puis de tirer des conclusions, puis de dire « Ah, c'est de même », puis c'est comme ça. Comme si, tout à coup, l'univers au complet s'expliquait en une cause qu'on a déjà vécue. C'est que moi, je veux pas ça. Ça me tente pas de ça me tente pas de vivre de même. Ça me tente pas de dire « Demain pourrait être inquiétant, donc je poursuis pas un idéal qui va peut-être arriver juste demain et qui, peut-être, effectivement, n'arrivera pas. » Fait que c'est-tu moi qui est naïf? Moi, je veux dire, je vois pas en quoi, à date, ça m'ennuie. Je vois pas en quoi ça m'ennuie. Peut-être que je m'en rends juste pas compte. Mais c'est comme... Je refuse, à quelque part, de me plier à l'espèce de dictature de la déception qu'il faut éviter à tout prix. Parce que ça, voilà, ça amène une douleur quelconque que je comprends très bien, que je vis comme tout le monde. Je suis pas au-dessus du fait que tout à coup, t'es frustré ou que t'es triste ou que, tu sais, je veux dire... Ça habite tout le monde selon les événements. Mais c'est comme si, on dirait que moi, je ne veux pas embarquer dans l'idée que ça aboutit pas, ça aboutira jamais, ça aurait dû aboutir avant. C'est tout vrai, là, qu'on peut tout se dire ça, tu sais, mais en même temps. Puis ça touche au podcast que j'ai fait il n'y a pas longtemps, puis que mon chum Olivier Dano m'a dit que ça y avait parlé, quand je disais « Qui se souvient de l'hiver? » Tu sais, aujourd'hui, là, je vous parle, là, il fait beau à mort. Là, il fait super beau. Là, je suis au centre-ville, je regarde à travers la fenêtre, je vois le quartier des spectacles. Il n'y a à peu près pas un nuage dehors. Pensez-vous vraiment que je me dis, hey, oui, sauf qu'on a eu un mois d'avril épouvantable, puis hey, février, puis ça a commencé en... On ne se souvient plus de ça. La vie est ainsi faite qu'à un moment donné, c'est banal, mais le fameux « après la pluie, le beau temps », c'est vrai en tabarouette. Fait que soit qu'on se projette dans le temps en se disant « Les épreuves d'aujourd'hui vont être à peu près effacées dans un temps X, mais on souhaiterait toujours que ce soit de même. » Des fois, c'est dans 5 ans. Je le sais, moi, il y a bien des affaires dans ma vie que je me disais « Ah, dans 3 mois, ça va être réglé. » Non. 3-4 ans après, c'est pas réglé. C'est pas une vie de misère, pas pantoute, mais tu sais, des dossiers que tu te dis « Moi, je travaille pour que ça se passe et ça se passe pas. » Ben, tu peux, à la rigueur, faire comment « Mon Dieu, je mets un X là-dessus. » Mais pourquoi un X là-dessus? Quand t'es en mode attente, ça, c'est autre chose. Si tu attends après quelque chose, ça veut dire qu'il y a des affaires que tu dis non au lieu de les mettre en branle parce que tu es en mode attente. Alors ça, c'est un autre truc. Puis encore là, projet professionnel ou tu as un ex qui te dérange puis tu refuses de rencontrer d'autres mondes. Ça, c'est un autre truc. Mais c'est pas de ça que je parle. Moi, je fais juste dire que je trouve qu'il y a trop de monde qui gère une éventuelle déception. Au lieu de dire « Peut-être que je serai déçu, mais au moment où on se parle, ça fait partie des choses que je continue de vouloir essayer, pitcher, mettre de l'avant. » Puis là, la question devient « Est-ce que c'est une pure perte de temps? Ça n'arrivera jamais. » Puis si la question, c'est « Non, c'est peut-être pas arrivé encore. » Moi, je juge qu'il n'y a pas de raison d'arrêter. Stéphane Lapointe a écrit, pas Stéphane, mais... oui, Stéphane Lapointe a écrit... Stéphane Laporte a écrit un article. Souvent, il écrit franchement des affaires qui sont très, très, très intéressantes. Puis, il parlait de ça. Puis, il disait, entre autres, il dit, on n'en a que pour le bonheur, la tyrannie du bonheur. Je trouve ça intéressant comme expression. C'est pas de lui, là, mais j'ai lu ça ailleurs. Puis que si, par exemple, il y a de la douleur, ben c'est comme il faut tellement l'éviter le plus vite possible, alors que ça fait partie de la vie. Si t'es capable d'accepter le fait que là, ben tel aspect va super bien, puis tel aspect... Tu sais, prendre un peu de perspective... ben ça remet les choses dans l'ordre, ça fait en sorte que tout à coup, demain est un autre jour, puis il y a des opportunités qui se présentent. Ça, c'est l'autre affaire que je parlais hier à Martine, à ma comptable. Je disais, c'est pas toujours parce que, tu sais, le fameux t'étais pas prêt, mais tu pensais que t'étais prêt. Des fois, c'est ça, mais c'est pas toujours ça. Des fois, c'est les gens qui sont pas prêts parce qu'on a une offre qui est un peu révolutionnaire. Ça arrive, ça. Les grandes inventions, c'est carrément ça, là. Henry Ford, il disait, lui qui a inventé l'automobile, le Ford T, puis la chaîne de montage, il disait, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu, un cheval qui court plus vite. Comprends-tu? Le monde n'aurait pas inventé une auto. Bon. Ça fait que bref, de se protéger de tout ça, moi, ça me tente pas. C'est pas comme ça que j'agis, puis je garde plutôt mon enthousiasme à me dire, hey, j'y goûte. Déjà, j'y goûte. C'est comme, c'est hot. Éventuellement, je pense que ça peut arriver. Puis, si ça n'arrive pas, est-ce que je serai déçu? Ben, ça, c'est une autre question. Est-ce que je serai déçu par définition? Peut-être pas. Parce que je l'ai vécu, moi, dans d'autres volets de ma vie. Ou est-ce que tu veux vraiment quelque chose, mais quand ça n'arrive pas, tu y as tellement goûté, tu as tellement quand même fait les démarches, que tu as vu aussi les côtés qui ne conviennent pas. Ça n'existe pas, là, un projet que tout est rose, puis une personne que tout est fantastique. C'est pas vrai, là. Guy Laforce, il me disait ça, je trouvais ça intéressant. Il disait, quand vraiment, là, t'as le cœur brisé, puis qu'il y a une fille qui t'a brisé le cœur, quand tu la revois, à quelque part, c'est que tu lui donnes l'occasion de te décevoir. Puis vous remarquerez, c'est souvent ça. Tu revois quelqu'un avec qui t'as une histoire, puis là, c'est comme, oh mon Dieu, la grosse affaire. Puis là, tu la recroises, puis là, c'est comme, t'as eu le temps de digérer les affaires, t'as une perspective nouvelle, tu t'en rends même pas compte. Puis tu fais, hey, c'est-tu quoi, la personne? Pas déçu en voulant dire, mon Dieu, c'était non ben zéro. En tout cas, je te le souhaite pas si t'as trippé dessus, elle devait avoir quelque chose. Mais les gens, c'est normal qu'ils nous déçoivent. C'est ça que je veux dire. Des projets, c'est normal qu'on soit déçu. C'est normal. Fait que gérer la déception, c'est quoi dans le fond? T'sais, c'est comme vouloir éviter de quoi que, anyway, à quelque part, à certaines proportions, ça va arriver. Alors voilà, mes amis, dites-moi ce que vous en pensez.